Allez, on y va, messieurs, dames, c'est dimanche matin, Noël, c'était avant-hier soir, je crois, donc on va tous se souhaiter un joyeux Noël, et une bonne année. Messieurs, j'espère que vous avez passé un réveillon quand même correct, malgré les circonstances. J'espère surtout que vous n'avez pas bravé les interdits, parce que attention à votre santé et à la santé de tous les sportifs. Autour de la table, j'ai bien sûr mon Fredo, Fredo la science, qui ne m'aura pas quitté de l'année, et c'est le seul. Merci, mon ami.
Bonjour à tous.
J'ai Lionel, évidemment, compère, grand compère, mais Fred est mieux que toi au niveau de plutôt de présence.
Pas de beaucoup, mais je sors couvert de cadeaux. Je suis plein de cadeaux, j'ai fait le Père Noël, c'était un grand moment.
Extra. Mon Gilbo, plus intermittent du spectacle, mais quand même très présent cette année. Bravo Gilbo.
Gilbo du journal L'Équipe, bonsoir.
Bonsoir. On est toujours en plein Vendée, donc on t'écoutera encore avec attention, Gilbo. Et Nico, bien sûr, Nico, l'intermittent du spectacle. Il a fait, je crois, 3 émissions dans l'année. Merci, Nico, pour ta présence.
Ça fait c'est dur avec les acéliques.
Bien sûr. Et évidemment, on fait comme tout le monde. On vous souhaite un très, très bon Noël à tous. Et donc, bientôt, une bonne année. On a plein de choses à se dire aujourd'hui. Puisqu'évidemment, qui dit émission de clôture, dit petit bilan de l'année. On va voir si on pense tous les mêmes choses de cette année, quand même sacrément spéciale par rapport au Covid, bien entendu. On va pas non plus trop s'épancher là-dessus parce qu'on en parle trop, on en a trop entendu. Et donc nous, on va essayer d'être un petit peu original, ce qui est quand même la touche de l'autre radio, messieurs. Donc, est-ce que vous voulez un sommaire ou on va commencer cash, peut-être, les gars, avec un petit quiz, bien sûr, sur les gens que l'on a reçus durant l'année. Et sur mon écran, moi, c'est Lionel qui apparaît sur la première case. Donc, Lionel, c'est à toi. Tu vas essayer de me citer une personne qu'on a reçue dans l'année. Donc, toi, tu as 0 souvenir.
C'est vrai qu'il était là tout le temps. Si, j'ai plein de souvenirs, mais j'ai aucun nom. Je suis désolé. Non,
c'est pas grave.
Lionel, il ne s'intéresse pas aux invités.
Dans déjà moins un pour toi.
Le président du foot de Forcé, c'est tout frais, mais je n'ai pas son
nom. Alan Bellec, ok, je te le compte. Alan Bellec, 1 point. Fredo, ensuite Nico, ensuite Gilbo.
Julien Tagnou.
Ouais, Jutanien, coach.
Ouais, je l'avais aussi, Julien, moi, facile.
Ouais, toi, tu écoutes une émission sur 5, Nico, donc toi, ça va être dur de trouver, parce que là, c'est à toi.
T'inquiète. Le mec qui a fait l'enduro du Touquet, là.
Ouais, Éric Poiré, qui nous a fait ce plaisir, tout à fait.
Il a fait le bouquin, il n'a pas fait l'enduro, il a fait le bouquin sur l'enduro.
Il a fait le bouquin
Clément Bourgeois, champion de véliplanchiste.
Ouais, tout à fait,
le véliplanchiste.
Très bonne émission. Avec son joli nom.
Arnaud Courtais, qui met un terme à sa carrière.
Non, mais là, c'est pas à toi, déjà, Nico, donc tu dois respecter les...
Ça fait 2 points quand même.
C'est à Lionel.
Courteil, c'était cette année.
Bah, la question est bonne quand même, hein, parce qu'à mon avis, Courteil, c'était l'année d'avant. Hein.
Ah ouais. Bon, bah, j'en ai un autre. Dans ce cas-là, la responsable de la capoeira en Mayenne.
Oui, ça, je te le valide. Ouais, je te le valide. Je n'ai plus le prénom, malheureusement, non plus, mais elle nous avait fait plaisir de parler de son activité. C'est à Frélo.
Le président du sport pour un certain âge, là.
Ah, l'année précédente. Je suis obligé de te le dire. Nico, il fait la gueule parce que je vous dis, il a rien du tout, là.
Bah, tous ceux qui ont été cités, je les avais.
Ouais, évidemment, ouais. J'en doute pas 2 secondes. Il vous manque.
Un boxeur ?
Non, Jordi Veil, c'était l'année dernière.
Il y a mon Gilbo qui lève la main, donc je vais donner la parole.
C'est à mon tour, non ?
Ouais, bah Nico est éliminé, oui, c'est à toi.
Le président du club de gym du Bourny, je sais pas quoi.
Non, c'était l'année précédente.
C'était l'avant aussi.
C'était l'année précédente. Eh bien, très bizarrement, mon Lionel, tu n'as pas fait honneur à Paul-Antoine Normand.
Oui, CrossFit. Tu parlais
de CrossFit.
Ah oui, très bien. Bien sûr.
Il en manquait un, c'était le président du judo. le judo, qui nous judo Lavallois, oui, qui est venu également pendant la période de confinement. Vous avez été nul
avec son coach. Avec son coach, avec le coach aussi du club.
Voilà, donc on va remercier évidemment tous ces invités qui ont pris le temps de venir nous parler de leur sport. Ça fait très plaisir. Je suis désolé, messieurs, dames, mes chroniqueurs sont tout simplement mauvais. moi, j'aimerais vous rendre hommage parce que c'est grâce à vous quand même que l'émission tourne et que le sport en Mayenne tourne, évidemment.
Les consultants sont meilleurs que les invités, hein. C'est pour ça.
Les événements, messieurs, les événements, évidemment, je disais tout à l'heure, bilan de fin de saison. Je vais vous demander vos événements sportifs de l'année et purement sportifs. D'accord ? Alors moi, peut-être pour vous mettre sur la voie, je vais vous dire ce que j'en pense moi. Puisque moi, mon événement sportif de l'année, ça pourrait être le rugby qui est en train de se relever. Notre rugby tricolore, en tout cas.
Ah oui, bah, c'est pas très précis comme événement, mais c'est…
Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est pas forcément un événement.
C'est la deuxième place, non, ils ont gagné, c'est la deuxième place de l'équipe de France dans le tournoi. Ouais, pour eux.
C'est au-delà d'une deuxième place, c'est peut-être un esprit qui revient, c'est peut-être un jeu qui revient. Donc ça va au-delà de ça, mais tu n'es pas obligé de partager mon avis, Gibo. Moi, je l'ai mis dans mon top 3. Fred qui levait la main.
Bah, si tu nous demandes un événement sportif, la Ligue des Champions, oui. Puisque le Final 8 qui avait été décrié, finalement, ça a été plutôt une compétition intéressante. Et moi, je me suis pris au jeu alors que je n'y croyais pas du tout au départ. Donc, j'ai trouvé ça intéressant et j'ai trouvé le format très intéressant.
Alors, on en a déjà parlé évidemment ici que ce format a été très intéressant, c'est vrai, mais qui ne peut pas, bien sûr, être mis sur des années à venir, financièrement parlant, bien sûr, et au niveau tout simplement des villes qui reçoivent cet événement-là. C'était un moment purement Covid. Moi, je suis d'accord avec toi, Fred, c'est un bel événement, sauf que est-ce que ce n'est pas une Champions League galvaudée ? Est-ce que ça a eu la même saveur que les années précédentes pour ceux qui l'ont gagné, à savoir le Bayern ? Moi, je ne la mets pas en 1. C'est sûr que je ne le mets pas en 1, ça. Je ne mets pas en 1. Et Lionel, est-ce que tu as une idée, toi ?
Bon, il y avait des choses qui viennent à l'esprit, mais ce n'est pas des grands événements, finalement. Je pensais à Hamilton avec son énième sacre en F1. Mmh. Je pensais au retour de Tyson pour sourire, mais… Non, mais je suis d'accord. Là, c'est vrai que le foot, la Ligue des Champions était quelque chose de très fort cette année, malgré tout.
Ouais, très fort, vous allez loin.
Hein. Bah, c'est ce qu'il y avait de mieux.
C'est ce qu'il y avait de mieux parce que le format, mais c'est plus la Ligue des Champions pour moi, ça. C'est à Fred et à Nico après.
Ouais, mais moi je pense que c'est réellement une idée à développer parce que comme je défendais un petit peu Platini autrefois dans une autre discussion, lui il était pour le football l'été parce que les gens sont disponibles, les supporters sont disponibles et paradoxalement cette situation sanitaire a fait que on a pu enfin avoir une compétition digne de ce nom en plein été. Et paradoxalement, alors qu'elle était hyper décriée, tout le monde disait que personne ne suivrait, finalement, ça a été intéressant. Alors peut-être nous, Français, parce qu'il y a deux équipes françaises, mais j'ai trouvé les matchs intéressants. Je trouve que la meilleure équipe a gagné, l'équipe qui a été la plus forte a gagné. Donc, non, franchement, c'était un format très intéressant.
Oui, mais on a déjà, Fred, on a déjà une Coupe du Monde, on a déjà un championnat d'Europe. Donc ça se passe tous les deux ans, puisque c'est les années paires. Ce format-là, on le connaît. La Champions League, c'est autre chose qu'on nous apporte dans l'année. Alors très bien, ils ont su s'adapter et ils ont fait ça de manière formidable. Je ne nie pas du tout. Je dis simplement que ça ne peut pas perdurer. Ça ne peut pas perdurer. Ce n'est pas le format Ligue des Champions. Et moi, je préfère quand même la Ligue des Champions. Elle a plus de valeur sur sa manière classique d'évoluer. Gilles Bott.
Ouais, alors juste pour rebondir sur ton truc, c'est que la Coupe de France va être un peu, peut-être pas, un petit peu sur ce format, mais pas vraiment, je crois pas. Enfin, bref. Et si je peux parler des événements sportifs. On est quand même obligé de dire que c'est quand même l'annulation des Jeux Olympiques que l'événement sportif de l'année.
Non, alors tout à l'heure…
Alors, je sais que ce n'est pas le thème, mais bon…
Gilbo, bah,
si je peux en placer une à un moment donné, j'aimerais bien.
Oui, c'est Nico après, mais Gilbo, sur ce que tu viens de dire, c'est très intéressant, mais ça viendra dans un deuxième temps dans le questionnaire, donc tu gardes ça. Arrêtes de tourner la tête à droite quand tu parles, s'il te plaît, tu es avec nous. C'est parti, c'est à toi.
Je surveille mes gosses.
Ouais.
Alors donc moi, ça... c'est un nom d'événement. L'événement, c'est un nom d'événement. C'est effectivement l'annulation des Jeux Olympiques. C'est un truc qu'on n'aurait jamais pensé.
Bah oui.
Qui arrivera un jour.
Non, mais les mecs, ça, c'est la première chose. C'est dans un deuxième, questionnement. Ah, non, je fais le purement sportif et me dis pas la retraite de Martin Fourcade. C'est pareil.
Le purement sportif, c'est vélo. Le purement sportif, c'est la victoire d'Alaphilippe au championnat du monde. Ça, c'est la première.
Très fort, ça. Ouais.
Ça, c'est un événement. Et la deuxième chose, c'est le Tour de France qui s'est déroulé cette année dans des conditions très particulières et au final qui a été plutôt réussi et intéressant.
Ah, voilà. Je suis pas d'accord avec toi. On aura le temps d'en parler également. Je suis pas d'accord avec toi. C'est Lionel qui avait levé la main et puis Fred.
Oui, ben pour répéter ce que vient de dire Nico, moi je suis d'accord avec Nico. J'ai un grand souvenir de ce Tour de France qui était mal barré et qui nous a laissé de très bonnes sensations. Vraiment, je reprends également l'événement championnat du monde avec Alaphilippe. Bon, vraiment bien. D'accord, Nico, à 100%.
Non, mais Nico est très bon. Je suis d'accord avec son idée de Alaphilippe. C'est très, très bien. Sauf que moi, ça fait à peu près 30 ans que je suis le vélo, 30 ans que je suis à bloc sur ce championnat du monde et qu'évidemment, j'attends que ce soit un Français, puisqu'on rappelle que le précédent, c'était Brochard, 97 ou 18. Et ben là, j'attendais un Français comme un Bergeau. Et ben cette année, on en a eu un. Et ben non, ben je l'ai un peu raté. Je l'ai un peu raté parce que j'étais pas forcément dedans, parce que l'événement, il y avait pas de spectateurs, parce que c'était pas l'engouement, parce qu'il manquait quelque chose. Donc moi, formidable à la Philippe, bravo à lui, mais je trouve que c'est galvaudé. Fred.
Ah, je suis un peu d'accord avec Nico, sauf qu'il se trompe de course. La plus belle course de la saison, ça a été le Tour des Flandres. Avec la victoire de Van Der Poel devant Wout Van Aert, ça a été vraiment une super course où ils se sont expliqués jusqu'au bout. Et il y a même eu le petit côté dramatique, puisque Alaphilippe, qui était juste champion du monde, qui était avec les deux gars devant, bah, il est tombé parce qu'il s'est pris une moto. Donc, il y avait tout dans cette course. Il y avait à la fois le côté dramatique, les meilleurs coureurs et le plus grand champion actuel qui a gagné. Donc, je trouve ça assez chouette.
Mais c'est aussi pour ça qu'on l'appelle Fred de la Science. Il ne tombe pas dans des banalités de championnat du monde comme un Nico. Il va beaucoup plus loin sur un Tour des Flandres. Bravo à toi, mon ami. À toi, mon Gilbon.
Alors moi, je t'as un truc à te faire pardonner, Benoît Yvain ? T'as un truc à lui demander ou...
Gilbon.
Je vous renvoie la question. Quelles sont les deux plus grosses surprises sportives de l'année ?
Non, mais c'est pas toi qui dirige l'émission. toi, t'es là pour
jouer les événements. Je joue les annonces. Donc, t'as la victoire de l'anglais, là, au Giro. Tao Gegenhardt, qui est quand même une
bonne surprise. Non, mais ça, tout le monde s'en fout, Gilbo. Non, mais c'est pas un truc qui t'a marqué, quoi.
Et t'as la championne de golf à Popov, qui revient de nulle part, qui gagne le British Open.
Mais tu te fous du monde. Je te parle de ton top 3 d'événements de l'année. Tu me cites une golfeuse. Qu'est-ce que tu veux ? Si tu as que ça dans ta vie, mon pauvre. Non, moi, je vais vous dire un autre truc qui a été très marquant et qui peut-être que nous, de notre côté de la Manche, un petit peu moins. Mais ce titre de Liverpool, c'est quand même extraordinaire également. Hein. Les mecs attendaient ça depuis 30 ans. Pour eux, c'est une révolution. Ils ont été champions d'Europe plusieurs fois. Enfin, ils ont gagné la Champions League plusieurs fois. Et ben, vous avez l'impression qu'ils n'en avaient rien à faire par rapport à ce titre national. Et ce titre, ils le décrochent. Et je trouve que pour la ville de Liverpool, c'est un moment extraordinaire. Et au-delà de ça, parce que moi aussi, par exemple, je suis marqué par ça. Vous avez peut-être autre chose encore, les gars. Moi, mon dernier truc où j'ai vibré, pour le coup, j'ai vibré, c'est mon Hugo Gaston. Voilà, je me suis un peu emmerdé, il faut être honnête, comme beaucoup de monde devant le Roland Garros. Et ben, devant Hugo Gaston, moi, j'ai vibré. Ben, c'est pas la peine de souffler, les gars. Je me suis pas enflammé énormément pendant l'année. Ben, je peux vous dire que ça, c'est un moment où devant mon poste, j'étais quand même emballé. C'est Nico et Gilbo derrière. Non, pardon, c'est Fredo et Gilbo.
Ouais. Alors, moi, c'est surtout, tu vois, Roland Garros, j'allais le mettre dans mon top 3 des événements pourris de l'année, quoi. Parce que s'il y a bien eu un tournoi, où on s'est vraiment ennuyé, où les joueurs s'ennuyaient et tout, c'est effectivement Roland Garros qui a été vraiment un flop. Franchement, c'était triste à mourir. Alors, effectivement, on a ce Français qui a sauvé un petit peu la mise pour nous, Français. Mais alors, ça a été un tournoi moche du début à la fin. À la fin. Ouais, c'est à mourir. Mais
continue à me plomber mon émission, hein, parce que ça vient après, normalement, dans le truc, dans les flops de l'année. Hein. Mais continue.
Je pourrais en mettre une couche.
Allez, mon Gilbot.
Si on avait le score avec Fred sur Roland Garros, il y a eu des très bons matchs. Moi, je ne suis pas d'accord du tout, mais bon. Après, comme Liverpool, Benoît, moi je voulais parler du Stade Rennais, qui est qualifié en Ligue des Champions, mais comme non. Liverpool, ça a été un petit peu gâché par le... On ne va pas parler du Covid, mais quand même, la ferveur.
Si.
Mais je ne veux pas en parler du Stade Rennais en Ligue des Champions.
Oui, mais tout est gâché par le Covid cette année, tout. Roland Garros, le Tour de France, la Coupe, la Champions League, tout est gâché par le Covid, on se rend bien compte. Donc il reste que le purement sportif, l'engouement, il n'y a pas.
Non, il y a la, comme on disait tout à l'heure, la Ligue d'Esch s'en est bien sortie, le Tour de France s'en est bien sorti, mais c'est vrai que je trouve forcément, pour ceux qui se sont bananés, t'as raison, Fred, c'est Roland Garros. Et c'est non. Et ben moi, Gilbo, tu vois, c'est ce Liverpool, je suis malheureux pour eux parce que je trouve que c'est l'événement des 30 dernières années pour eux et ils n'ont pas pu le fêter correctement. Donc je suis assez malheureux pour moi, mais ça reste quand même mon événement de l'année. Moi. Ça reste mon événement de l'année.
Devant la finale du PSG, quand même.
Ouais, complètement. Mais pour moi, c'est anecdotique. Cette Champions League-là, c'était du. C'est... Elle est anecdotique. Ça, on en revient au jeu de dés du football. C'est... T'as une chance sur
deux. Je ne suis pas d'accord.
Pas du tout d'accord.
Ça se fait très bien en basket. Ça se fait très bien en basket. Ça se fait très bien en volley. Alors peut-être qu'à 8, c'est trop. Mais un Final Four avec les 4 meilleures équipes européennes, ça peut être. Ça peut avoir de la. Du cachet. Là, non, peut-être qu'effectivement, à 8 clubs, c'est peut-être un peu trop.
Parce que moi, je répète que le. Alors, c'est pas. Tous les sports sont pas pareils. Le rugby, c'est pas la roulette russe. Le hand, c'est pas la roulette russe. Le football, c'est la roulette russe. Les mecs sont à peu près tous au même niveau. Donc, après, ça va dépendre d'un corner, ça va dépendre d'un penalty sifflé avec tous les. Ce qu'on connaît sur les scandales des mains et compagnie. Et donc, sur un match, si tu défends bien, tu fais ta zone et machin truc chose, tu vas profiter d'un corner, il va y avoir un but. Bah, sur un match aller-retour, c'est pas pareil. Et c'est pour moi, c'est la petite saveur de la Ligue d'Esch. Fred.
Ouais, mais tu vois, je suis pas trop d'accord avec toi. Je suis plutôt d'accord avec Nico là-dessus. C'est que effectivement, peut-être qu'à 8, c'est un peu trop, mais finir sur un Final Four. Tu prends juste un exemple, tu prends le match Bayern-Barcelone. En match aller-retour, tu l'aurais jamais vu, ce 8-2. Parce que pourquoi on a un score fleuve comme ça? C'est parce que dès qu'il y a un but, les autres sont obligés de se découvrir comme c'est un match élimination directe. Et ça amène un peu de piment qu'on n'aurait jamais vu autrement, quoi.
Donc, on est d'accord.
Effectivement, à 8, c'est peut-être un peu trop, mais finir sur une finale à 4 dans une super ville, sur un super terrain, ça pourrait être quelque chose de. Ouais, finir en apothéose, c'est plutôt pas mal.
Gilbo?
Ouais, je suis d'accord avec Fred et Nico, donc voilà, c'est certainement la vérité. Et juste, il faudrait quand même qu'on parle dans l'année de l'athlétisme, soit la perche quand même, du Plantis.
Ouais.
Une question sérieuse. Il y a eu quand même un record du monde.
Ouais.
Là, je pense qu'il ne faut pas…
Hyper mais c'est vrai. Mais c'est vrai.
Mais ouais, c'est quand même énorme.
C'est énorme. Tout à fait vrai. On ne parle pas assez d'athlétisme, malheureusement. Bah, notre chroniqueur spécialiste athlète, tu parles, il vient une fois sur 15. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on dise?
Il y avait au programme.
Fred, pour finir, parce qu'il faut qu'on enchaîne.
Ouais, c'est juste pour répondre à Gilbo. L'avantage avec Duplantis, c'est comme il est jeune, il va encore en battre d'autres records du monde. Et là, il y aura du monde pour en discuter. Quoi.
C'est pour le dernier.
Peut-être. Ah, c'est Lionel qui se manifeste maintenant. J'ai dit que le débat était clos.
Hein. Oui, non, mais c'est pas un peu pour conclure. Je pense que ça pourrait t'intéresser parce que ta question, les Français ont répondu et ça a été assez surprenant. Je te donne les deux premiers. Je crois qu'on les a absolument pas cités en termes d'événements, hein, en termes d'événements sportifs. Et tu vas voir qu'il y a un lien entre ces deux premiers événements sportifs. C'est l'accident de Grosjean à F1.
Non, ça, c'est dans la deuxième partie de mon questionnement. C'est
un
pas
un événement sportif,
ouais. Bordel.
Il fait exprès, Lionel.
Commence à m'agacer, lui aussi. Hein. OK, messieurs,
et puis c'est
on a fait le tour à peu près des événements. Lionel, c'est à toi, Lionel, là.
On peut savoir, quand même. On peut savoir le deuxième événement qu'on citait les Français. Ça m'intéresse, moi.
Non, Lionel, c'est à toi la parole pour ton petit quiz que, malheureusement, nous n'avions pas eu le temps de faire il y a 15 jours.
Eh bien non, je te propose un autre petit quiz, si tu veux bien.
Allez, allons-y.
Pas celui de l'autre fois, avec une autre thématique que je vous propose de deviner en musique.
L'argent. Money.
Ouais. Ouais. Il est bilingue en plus, ce Fred. Donc on y va, mon Lionel.
Voilà, bon, alors effectivement, un petit quiz sur le thème du pognon. Sur les grands gagnants, je dirais, du pognon. J'ai plusieurs, on va peut-être faire en plusieurs fois. Je vais commencer peut-être par les sportifs, les mieux payés de 2020, qui est le sportif. Allez-y, je vais vous dire dans le top 10. Alors, allez-y.
Français, mais, pardon.
Roger. Ah, non, non, au monde.
Non, mais regarde l'écran. Hein.
Ah, pardon, je ne peux pas regarder l'écran. Attends, je vais essayer, mais ça ne va pas être simple.
Bah alors, c'est moi, je vais te le dire, moi. Le sportif, en tout cas français, le mieux payé, c'est Rudy Gobert.
Alors, ce n'est pas lui d'abord, mais…
Si, c'est lui, t'emmerdes pas, c'est lui.
Et ça non, sera pour l'an prochain, hein, Benoît. Ça sera pour l'an prochain, Rudy Gobert.
Dans le top 10 mondial, vas-y, Fred.
Roger.
Et oui, cette année, il a fait la grosse surprise, c'est Roger, qui est le sportif le mieux payé en 2020. C'est qu'il il a gagné 5 places par rapport à l'année dernière. Allez, derrière, vas-y, Gilbo.
Lewis Hamilton.
Lewis Hamilton n'est pas dans le top 10, il est dans le top 20.
Ouais, moi.
Tiger Woods.
Nico, tu demandes la parole ?
Bah, il dit n'importe quoi, Nico.
Tiger Woods.
Tiger Woods est dans le top 10. Il est numéro 8.
Ah, là, t'en fous en rien de l'année, il est dans le top 10.
C'est ça la culture.
Non, mais où ils trouvent le pognon ?
Mais c'est les sponsors. Parce que
c'est les sponsors. C'est
les sponsors.
Bah, les sponsors. Les mecs, ils continuent à miser.
C'est des réalistes Rolex.
Il fait 45e à chaque tournoi. Je vois pas pourquoi on mise sur lui. Moi.
Allez, à l'autre.
Oui, bah, Cristiano.
Bah, Ronaldo.
Cristiano, numéro 2.
Messi, numéro 3.
Quelqu'un peut dire à Nico, même s'il ne vient pas souvent, qu'il a intérêt à lever la main quand il prend la parole parce que ça va m'agacer rapidement.
Gilbo.
C'est à Gilbo.
LeBron James.
Gilbo, j'entends pas.
LeBron James,
5, numéro 5, super.
Ah, ouais, c'est bravo.
Neymar.
Allô.
Neymar.
Fred.
Floyd Mayweather.
Très bon, mais il est dans le top 20.
À 10 monnaies, ouais.
Et on en reparlera. Ah, c'est oui, c'est beau.
Jean Le Cam.
Bah, ben c'est, moi je dis Neymar alors.
Neymar numéro 4. Voilà. Et les autres,
ça
les autres.
Pas toi que je dis.
Bah, tu lèves pas la main. Oh.
Les autres, ça va être plus dur. Les autres, ça va être plus dur parce que c'est américain.
Ah, basket.
Alors un basket, non deux baskets et deux football américains. Alors là, j'attends des costauds là.
Non, bah, on ne trouvera pas.
Tom Brady.
Non.
Non, mais on ne trouvera pas. C'est pas
alors, grave. On ne dira pas. Bon, alors, deux.
Durant.
C'est oui, Curry.
Kevin Durant. Voilà, vous les avez. Curry, Durant. Et les deux football américains, je ne pense pas que vous les aurez. Je vous les donne. King Kouza et Carson Wentz.
Ben, voilà. On n'a pas. Bravo, mon Lionel. Formidable. Merci à toi. On enchaîne tout de suite avec. Bah, vous avez voulu le faire tout à l'heure, les gars. Bah, c'est maintenant. Il va falloir se réveiller sur les événements de l'année, donc extrêmement marquants, mais qui ne touchent pas spécialement au sport en lui-même. Quoi. Donc, moi, j'ai mon petit classement pour le coup, mais vous en avez peut-être un différent. C'est Gilbo qui veut tout de suite parler.
Bah, évidemment, la mort del Pibe de Oro.
Exactement, je pense que c'est l'événement majeur de l'année.
Forcément. De jeunesse.
On a passé une belle émission à en discuter. On en pense ce qu'on veut de Maradona. Mm-hmm. Toujours est-il que c'est l'événement de l'année. Je vous dis ce qui correspond au non sportif. Qu'est-ce qu'il y a, Nico ? Qu'est-ce qui ne va pas ?
Bon, en gymnaste, à mon avis, la mort de Maradona, ils n'en ont rien à foutre. Hein.
Bah, c'est qu'ils connaissent pas le
sport. L'événement, c'est la non-tenue des jeux.
Non.
La dernière fois, les deux étaient. Si.
Mais t'as vu des pays en liesse, t'as vu la une des JT.
Pour les escrimeurs, pour les gymnastes, pour les patineurs, la mort de Diego Maradona, c'est pas un événement planétaire.
Nico, ça touche bien au-delà du
c'est
football.
C'est le monde du foot.
Un escrimeur
mais pas
avant
du tout. Mais Nico, mais tu vis dans quoi, toi? Tu t'es cloisonné pendant 2 mois, là, ou quoi?
C'est possible.
Pas que ça a touché le monde entier. J'ai assez décrié le mec pour pouvoir dire que moi, je suis assez honnête pour dire quand même que, bien sûr, c'est l'événement. Alors que moi, ce qui ne m'intéresse pas spécialement, mais c'est l'événement. T'es de mauvaise foi, comme gars. Voilà ce que t'es, Nico.
Peut-être.
Quoi d'autre?
J'assume parfaitement ces mauvaises fois.
Quoi d'autre? Donc, la non-tenue des JO, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est quelque chose. C'est Fred qui voulait le dire et Nico. Donc
la mort de Gérard Rouillet, alors sur la même ligne.
Bon.
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'autre, messieurs?
Il n'y a pas un mec du Stade Rennais décédé.
Lève la main.
Il n'y a pas un mec du Stade Rennais décédé, parce que là, ça arriverait.
Fred.
Bah, le plus récent, c'est, on en a parlé juste avant, c'est Grosjean, c'est l'accident de Grosjean qui a mis le focus sur la F1 et puis sur toutes les questions de sécurité. Et puis en un miraculé, donc c'est quelque chose assez, je veux dire, faut pas qu'il tente le coup une deuxième fois, quoi. Donc
ouais. Et quand tu dis très justement, Fred, qu'il a, ça a mis le focus, ce terme qui m'agace spécialement en ce moment, puisque tout le monde n'a que ça à la bouche, donc qui a pointé la F1. Il va falloir peut-être que tout le monde de la F1 se remette en question, parce que rappelez-vous, messieurs, quand on a parlé de Pierre Gasly. On n'était même pas sûr qu'il ait gagné un Grand Prix. Il a fallu nous le confirmer, reconfirmer. On n'en était pas sûr. C'est vous dire l'intérêt qu'on porte. La F1 n'est plus sur TF1. La F1 n'est plus sur Canal+. La F1 est sur TMC. Donc, tout le monde s'en cogne royalement.
Non, c'est sur Canal.
Ce que tu as dit souvent, Fred, il y a un vainqueur, un champion du monde qui court la main sur le rétroviseur. Il va falloir qu'ils se remettent sérieusement en cause, sinon cette discipline qui est quand même mythique va crever. Gilbo.
Non, mais c'est sur Canal, la F1, Benoît.
Moi, je l'ai vu sur TMC, moi.
Ah ouais, c'est vrai. Et le truc de Grosjean, c'est un micro-événement, c'est juste un incident. C'est comme un arbre qui tombe sur la route, c'est pas du. Voilà, c'est la vie courante, c'est du truc.
Je suis d'accord avec toi, sauf.
Ça m'intéresse pas plus que ça.
Moi. Sauf que moi, ça m'a plus fait parler de F1 que la victoire de Gasly. C'est quand même un truc de fou. Alors que Gasly, la victoire d'un mec d'un
Français. Benoît. Dans toutes les activités, un cycliste qui décède, on parlera plus du cycliste qui décède que du Tour de France ou de la course pendant 3 semaines, si ça se passe sur un tour extérieur. Regarde Evenepoel. La chute d'Evenepoel, on en parle plus que du tour de Lombardie lui-même.
Ouais.
Dès qu'il y a un événement qui sort de l'ordinaire, ça fait parler plus que
c'est vrai aussi.
Mais c'est pas du sport.
L'événement sportif en lui-même.
C'est à Fred de parler.
Mais c'est pas du sport et c'est pour ça que ça fait parler.
Et surtout la F1 devrait se méfier d'une chose, c'est que la F1 c'est plus dans l'air du temps puisque ce sont des moteurs thermiques, etc. Le grand championnat qu'elle vend en poupe de plus en plus, à la fois au niveau sponsor et au niveau aussi du jeune public, etc. C'est la Formule 1, donc sur les véhicules électriques, qui est en plein boom, qui recrute énormément au niveau pilote et surtout qui peut surfer sur l'air du temps. Et je pense que la F1 a intérêt à faire très très attention par rapport à ça, parce que le monde change et j'ai peur qu'ils prennent un coup de vieux d'un seul coup.
On en avait parlé évidemment avec Eric qui était venu nous parler du Touquet. Forcément, l'évolution écologique, c'est très important. Par contre, Fred, t'es d'une sacrée mauvaise foi parce que ta Formule E, tout le monde s'en cogne également. Donc pour l'instant, c'est pas en
plein. C'est l'agrégé qui parle.
Ouais.
Fred, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que la Formule 1 a compris quelque chose, c'est que leurs circuits sont beaucoup plus limités. Ils sont en centre-ville des très grandes villes. Ça, ils attirent du monde et c'est très spectaculaire. Et c'est très spectaculaire.
Non, Lionel, c'est trop tard, mon ami. C'est vraiment intéressant.
Non, je vais dire mon petit mot si
le sauvetage sur le bout des globes.
Alors, je lève pas la main.
C'est bon, c'est un truc de fou, toi, Nico. Hein. Tu comprends pas qu'il faut lever la main. Tout le monde attend son tour. Hein. Donc, Lionel.
Ouais, non, je voulais rebondir à la fois sur ce que disait Fred, que je partage, dans le sens où on voit bien que l'hybride est arrivé aux 24 heures du Mans dans le championnat d'endurance. Là, on est déjà d'un pied dans quelque chose qui va dans l'air du temps. Et ensuite, je voulais également rebondir sur le côté événement sensationnel, dans le côté sensation de l'accident de Grosjean, en rajoutant également le sauvetage d'Escoffier, qui a fait énormément parler de lui sur le Vendée Globe. C'est même ce qui a mis un peu le focus pendant quelques jours là-dessus.
Focus, voilà. On est d'accord. Fais attention, on ne dit
pas les focus.
On dit plus l'hybride, on dit les Japonais quand même. Attention au terme. on enchaîne, messieurs. On enchaîne avec le Ballon d'Or. Alors, oui, Nico, on passe un petit peu football, bien sûr. Hein, c'est un sport important, je crois, sur notre planète. Donc, le Ballon d'Or, messieurs, je vous demande simplement… je vais vous dire que moi, je suis pour une révolution de cette attribution, à savoir que je ne comprends absolument pas pourquoi on remet un ballon d'or pour tous les footballeurs, alors qu'un ballon d'or, c'est spécifique. Il faudrait un ballon d'or gardien, il faudrait un ballon d'or libéraux, il faudrait un ballon d'or numéro 10, et ainsi de suite. Le football, être numéro 9 ou être gardien, ce n'est pas le même sport. Être numéro 6 ou être ailier, par exemple, ce n'est pas le même sport. Donc, je ne comprends pas qu'il n'y ait qu'un seul ballon d'or pour tout le monde. Fred.
Ouais, mais c'est aussi parce que c'est la distinction. Après, ce serait difficile. Maintenant, suivant les systèmes, qu'est-ce qu'un 6, qu'est-ce qu'un 8, est-ce que c'est un milieu relayeur, etc. Il y aurait trop de sous. Qu'à la limite, effectivement, il y a pour le joueur de champ et pour le gardien, éventuellement.
Mais, non, Fred, dans ces cas-là, je suis d'accord avec toi, mais tu mets un par ligne. Tu
fais ouais, peut-être, éventuellement. Ouais.
Voilà. Parce que les ballons d'or depuis 2007 ou 2008, on est d'accord que c'est Messi et Ronaldo, donc deux attaquants extraordinaires, on est d'accord aussi. Maintenant, mets que des mecs comme ça sur le terrain, et ben, ton équipe, y a 22-22 à la fin du match, puisqu'ils vont prendre 22 buts et ils vont en marquer 22. Donc, à l'arrivée, l'équipe n'en sort pas gagnante. Donc, il faut faire très attention à cette distinction. Gilbert.
Ouais, et moi, ce que je regrette, c'est qu'en fait, c'est juste le reflet de l'individualisation du football. Et moi, j'irais même, alors après, c'est vrai que c'est peut-être pas très logique, mais à donner un ballon d'or à une équipe qui s'est distinguée. Alors, je sais qu'il y a les championnats et ainsi de suite, mais il y a des fois, il y a des équipes qui mériteraient d'être distinguées au-delà de. C'est un sport co, point. Le mec Mbappé, il n'existe pas sans l'équipe, sans le porteur d'eau et ainsi de suite. Donc, ça pourrait être intéressant. Même si les équipes sont, bien sûr, ont des palmarès et gagnent, l'équipe championne du monde aura le ballon d'or ou pas, d'ailleurs. Puisque je ne sais pas si l'équipe de Deschamps a eu le ballon d'or en 2018. Vaste débat. Ça aurait pu être intéressant.
Voilà. Ça fait penser, je te laisse la parole évidemment Fred ensuite, mais ça fait penser bien sûr à l'année où numéro 1 Messi, numéro 2 Iniesta, numéro 3 Xavi au classement des ballons d'or. Et ben pour moi c'est dégueulasse parce que Iniesta et Xavi à ce moment-là c'était vraiment le top du foot. On peut pas enlever non plus que Messi c'était pas un génie, mais toujours est-il qu'ils auraient mérité tous les trois. Donc c'est Barcelone qu'il fallait mettre en avant et c'était pas des joueurs. Fred.
Ouais, donc dans ces cas-là, c'est peut-être plutôt les critères pour obtenir le ballon d'or qui devraient être revus. Parce que, effectivement, c'est un sport collectif, Gilbo, mais dans ces cas-là, tous les ans, tu le donnerais à l'équipe qui gagne la Ligue des Champions, puisque c'est la compétition la plus difficile. Non. Donc, ça serait assez simple. Après, je pense surtout, on pourrait s'amuser cette année. Vous donneriez à qui le ballon d'or?
Eh bien, justement, messieurs, on va parler poste pour poste, puisque je ne veux pas de ballon d'or commun. Donc, on va parler poste pour poste. Et je vous demande de l'épine dorsale d'une équipe, en commençant par le gardien. On ne va pas faire, bien sûr, tous les postes, parce que nos auditeurs vont se lasser. Mais on va démarrer par le gardien. Moi, j'ai mon numéro 1. Moi, c'est Montgauthier Larsonneur, gardien de Brest, extraordinaire. Gilbo.
Je peux répondre à Fred avant ou juste à l'idée
par exemple.
L'année dernière, ça a été l'Ajax qui a eu le ballon d'or, par exemple. Ça va ouais. Arriver, toi.
Non, Bergame. Bon. Bergame également.
Ouais, voilà, par exemple.
Bergame qui était extraordinaire, Fred.
Ouais.
Non, mais c'était discutable l'an dernier parce que l'Ajax, ça jouait très très bien, ouais, effectivement.
Ouais. Voilà,
pour le gardien, moi j'ai le nom, c'est Neuer, le meilleur gardien cette année. Quoi.
Non, mais Neuer, tu t'emmerdes pas, Fred. Neuer, tu prends l'équipe qui est championne d'Europe et toi, tu vas me faire tous les mecs qui sont champions d'Europe.
Non, mais il est largement au-dessus du lot. Au-dessus du lot. Il a réinventé le poste.
Neuer, je nie pas du tout que le mec est extraordinaire, mais regardez Gauthier Larsonneur, ce qu'il fait. En plus, il a une équipe qui le fait briller, puisque c'est vrai forcément, il a une équipe plus faible que le Bayern, donc il y a plus de tirs, donc il est plus mis en avant. Donc, il est extraordinaire. Alors, René, évidemment, toi, t'es René, tu vas jamais reconnaître qu'un Brestois est plus fort que toi.
Il est bon, Gauthier Larsonneur, mais il a fait comme des boulettes.
Bien sûr.
Comme tout gardien. Lionel et c'est Edouard Fred.
Mendy, mais Neuer, c'est indiscutable.
Non, mais mon Ben, c'est vrai que Larsonneur, je l'aime bien aussi, mais on est avec une équipe de Brest qui est dans les toutes dernières en termes de buts encaissés. Ça, c'est pas terrible pour un palmarès de goal. Il faut l'accepter. Moi, j'ai beaucoup aimé Navas aussi. Il m'impressionne toujours. C'est peut-être pas du niveau de Neuer, mais je le trouve vraiment très impressionnant.
Ah ouais, enfin vous êtes ouais, c'est toi Fred. Mais ben vous, c'est pas compliqué les mecs, hein. Vous mettez un mur devant vous, et ben vous êtes des super gardiens, vous aussi, hein. Vous êtes en train de me parler du Bayern et de Paris. Ben, Paris, il y a 3 tirs dans le match. Et donc le mec, il va en sortir 2,5. Bon, ben heureusement, c'est un peu son boulot. Ben Neuer, c'est pareil, hein. Il a une équipe de Barjo. Forcément, il n'y a pas beaucoup d'adversité. Et ben ça donne des gardiens qui ne prennent pas de but, c'est logique. C'est Fred.
Voilà, tu m'étonnes, Benoît, au niveau analyse, parce que le seul point faible du Bayern, c'est sa défense centrale. Donc, c'est justement parce qu'ils ont un gardien phénoménal qu'ils arrivent à s'en sortir, parce qu'ils sont, effectivement, ils auraient quasiment le meilleur 11 partout, sauf sur la défense centrale qui est vraiment en dessous de tout. Donc, franchement, là, tu vois, la défense centrale, Paris, une meilleure défense centrale. C'est-à-dire, Marquinhos, c'est plus fort, Marquinhos, Silva, c'était plus fort. Donc, s'il y a bien, c'est aussi pour ça que Neuer, on le remarque bien, c'est parce qu'il compense les faiblesses de sa défense centrale.
Et Navas. Fred.
Gilbo.
Ouais, Navas a apporté énormément à Paris. Ça a été le jour à la nuit. Depuis qu'ils ont Paris a un goal qui est stable, qui est décisif, ça leur a permis d'aller en finale de Ligue des Champions, hein, clairement. Ça change tout à Paris.
Oui, d'accord. Parce que Paris, depuis quelques années quand même, faisait cette erreur de ne pas installer véritablement un gardien. Donc, on ne savait pas trop qui était où, quand, comment. Donc, forcément, c'est des postes où on a besoin d'énormément de confiance. Et Paris ne savait pas mettre son gardien en confiance. Là, c'est très, très clair dans la hiérarchie. C'est Neuer, Navas en 1. Et puis derrière, ils prennent les miettes, quoi. Donc là, c'est très, très clair. Et forcément, dans la tronche d'un goal, c'est important. Fred.
Ben c'est ça qui est assez sympa aussi, c'est qu'on s'aperçoit que les deux finalistes, à eux deux, ils auraient eu une super défense parce que l'axe central de Paris était beaucoup plus fort que celui de Bayern. Ouais. Par contre, les deux latéraux du Bayern sont beaucoup plus forts que ceux de Paris. Ouais. Et par contre, au niveau des gardiens, dans les deux cas, ils ont effectivement un gardien qui assure. Bon, Neuer un peu au-dessus, plus complet que Navas, mais Navas, ça fait effectivement beaucoup de bien à Paris.
En finale, il est monstrueux. Il est monstrueux, en demi et en finale, en demi aussi.
Bah, je reprendrai ta parole d'il y a 15 jours, moi Fred, Kimpembe, j'en veux pas à forcer par exemple. Il m'intéresse pas, moi.
Ouais, mais l'axe central qui a joué la finale, c'était Silva Marquinhos, qui c'est cet axe central dont je parle. Kimpembe est en retrait.
D'accord.
C'est pas mal en ce moment, Kimpembe. Attends.
Kimpembe, il fait un tacle dans le match. T'as l'impression que c'est le meilleur joueur du monde. Heureusement, c'est quand même son boulot de faire un tacle dans le match. Tout le reste, il va se regarder jouer un peu comme notre numéro 4 au Real Madrid. J'ai encore oublié le nom.
Varane.
Notre Français. Varane. Qui se regarde énormément jouer, mais qui, à l'arrivée, les mecs, vous êtes à des postes où il faut être efficace. Hein. Faut pas trop se regarder quand même. Fred, et puis on va conclure après sur
ça. Donc, celui que tu cherchais, c'est Varane. Et effectivement, Varane sans Ramos, c'est pas le même joueur. Et Kimpembe sans Marquinhos ou avant sans Silva, c'était pas le même. D'ailleurs, je voudrais revenir sur Silva, qui fait une année monstrueuse à Chelsea. Et tout le monde en Angleterre se demande comment Paris a pu le laisser partir. Tellement il le trouve fort.
Non, mais Silva, tout le monde l'a critiqué en France. Et maintenant qu'il est parti, tout le monde dit, mais pourquoi Paris est parti? Alors qu'on lui a, on lui a mis la remontada sur le dos, on lui a tout mis sur le dos. Alors que le mec, il en a pris plein la gueule. Et maintenant, tout le monde constate qu'il manque.
C'est aberrant. C'est tellement français. Giscard d'Estaing est mort, c'était le meilleur président du monde. Machin est mort, c'est le meilleur du monde. Tout le monde est le meilleur du monde quand il est mort, de toute façon, chez nous.
Non, Rika Zaraï, personne ne pense que c'est la meilleure chanteuse du monde.
J'ai parlé de dommages posthumes, pour ceux qui parlent un petit peu latin. Messieurs, ça va être notre coupure musicale. On vous retrouve tout de suite après, avec toujours des débats passionnant, parce qu'on sait que vous êtes vraiment très, très intéressé par ce que l'on raconte. Allez, à tout de suite. Joël, je te laisse la main.
Shame, oh shame, babe.
Allez, nous revoilà. Vive Noël, vive le nouvel an, vive le confinement, bien sûr. Vous êtes bien chez vous à nous écouter. De toute façon, il n'y a que ça à faire en ce moment. Alors, messieurs, on s'est quitté sur des débats passionnants. On va continuer avec Gilles Simon. Gilles Simon, tennisman. Mais avant ça, je vois mon ami Lionel qui s'impatiente comme d'habitude. Il veut prendre la parole. Il va vous donner la suite de son petit quiz. À toi, mon ami.
Oui, oui, on repart sur le pognon. Sur le pognon. Alors, je voulais faire une petite info là, parce que chez nous, le numéro 1 au monde, ça reste notre Kylian. Mais il est très, très loin, hein, Kylian. Il est très, très loin. Il est même derrière la première féminine. Et c'est un peu ça que je vais vous demander. Quelle est la première féminine à ce classement mondial et son sport, évidemment, Ben?
Du tennis.
Fredo?
Bah, moi, j'aurais dit Serena Williams au tennis.
Ah, ça, c'est vraiment pas mal, mais Fredo, ce n'est pas Serena Williams. Alors, si ce n'est pas Serena Williams, c'est qui?
Non, mais est-ce que c'est tennis, déjà?
Oui, c'est tennis.
D'accord.
C'est Osaka, Naomi Osaka.
Bravo! Ah ouais. Naomi Osaka, 29e, et loin devant Kylian Mbappé, 36e. Petit quiz que je voulais faire, c'était autour, non pas des joueurs, mais des sports. Alors, 2020, en sport cumulé, quel est le numéro 1? Alors, attention, il ne faut pas s'écarter. J'ai le top 9, mais il ne faut pas s'en écarter quand même, il ne faut pas déconner. Alors, ouais. Numéro 1, allez-y. Alors, je commence par Ben, numéro 1.
Non, mais je n'ai pas compris la question, en fait.
Ah, pardon. Au niveau des sports en gains cumulés des sportifs.
Ah oui, d'accord.
Quel est le sport dans… J'ai le top 9. J'attends le numéro 1. Il ne faut surtout pas sortir du top 9, s'il vous plaît.
D'accord. Bon, bah, moi, je ne m'emmerde pas. Hein, je veux dire foot.
Non, le foot, c'est numéro 2. Gilbeau.
Oui, non, mais d'accord. Mais attends, je te donne les 9.
Non. Les 9. Gilbeau.
J'ai perdu.
Gilbeau.
Le tennis.
Le tennis, c'est numéro 4, perdu. Fredo.
J'aurais dit le football américain.
Très beau choix, il est numéro 3. Ah non, football américain.
Ouais.
Oui, numéro 3.
Ça n'a pas l'air clair. Hein.
Non, il n'est même pas dans le top 9, le football américain.
C'est ridicule.
On voit que ce soit le soccer.
Pour une fois, Nico.
La NBA.
Oui, c'est le basketball, numéro 1, le basketball.
Bah, Nico, allez,
il m'en reste quelques-uns, là. Allez-y.
C'est fini, apparemment, on est viré du jeu, nous. Alors, moi, j'avais le numéro 2.
Maintenant, j'attends le top, j'en ai 5 à venir.
Golf.
Vas-y, Fred.
Ah, le golf.
Le golf, numéro 6.
Ouais, c'est con, je l'avais. Hein. La F1.
Benoît, tu l'avais.
La F1.
Oui, numéro 7.
Voilà. Moi, j'en ai déjà 2, moi.
Moi, j'aurais tenté le hockey.
Ah, non, pas dans le top.
C'est ridicule. Et toi, ça fait 2 échecs déjà, Fred. Hein.
Non, mais c'est parce que vous n'avez pas tous les salaires, parce que c'est monstrueux le fric qui est mis là-bas. Donc, j'ai du mal à comprendre qu'ils ne sont pas dans le top 9. Non.
Allez, il y en a 2 évidents. Gilbo.
Le vélo, le cyclisme.
Non. Bon, non. Pof, Nico.
Non, je ne sais pas. Là, je…
Ah, pardon.
Je ne sais pas. La boxe.
La boxe, numéro 5.
Ah, bien.
Il en reste 2, peut-être plus confidentiels pour nous.
Ah ouais, d'accord. Je suis… Oui, moi.
Oui, Ben.
Je suis le baseball.
Du baseball, numéro 8. Et le numéro 9, encore plus confidentiel.
Oui.
Pour nous.
Oui.
Benoît.
Moi, je suis le cricket.
Bravo, numéro 9.
Faudra nous expliquer les critères, hein, parce que pour que le baseball soit devant la NHL, le football américain et tout, c'est qu'un petit souci.
Ouais, je sens que Fred, tu es jaloux et c'est normal, j'ai fait un parcours très, très honorable. Bravo Benoît. Messieurs, nous sommes Gilles Simon ce matin. Gilles Simon, mon ami Gilles Boeller m'a prêté son bouquin. Alors, j'aime pas trop en général lire les livres des sportifs, je trouve ça pas forcément extrêmement intéressant. Là, les 40 premières pages de son bouquin ne m'ont pas fait changer d'avis, puisque Gilles Simon nous parle tout simplement de manière extrêmement jalouse de Federer. Il ne parle sur les 40 premières pages, il ne parle que de Federer, de la manière de jouer de Federer. Mais derrière, ça devient très intéressant parce que Jules Simon vous explique que la Fédération française ne vous apprend qu'une seule chose, c'est de jouer comme Federer, justement, alors qu'il y a 1000 façons de jouer au tennis et 1000 façons de gagner au tennis, surtout. Donc, pour lui, c'est une hérésie totale d'apprendre aux petits Français à jouer comme Federer, sachant que très bien que Nadal a également 20 grands chelems au compteur et que Murray a été numéro 1 mondial. C'est Gilbert, puis Fred, puis Nico.
Si je peux me permettre de corriger un peu ton propos, mon cher Benoît.
Oui.
Il ne critique pas Federer, il critique la façon dont on parle de Federer.
Ah non, non, à aucun moment. À aucun moment, j'ai dit.
Federer.
Non, non, à aucun moment, je dis qu'il critique. Il fait l'apologie de Federer comme tout le monde. Mais lui dit qu'il n'y a pas que Federer qui existe sur la planète tennis.
Il dit que c'est une erreur d'apprendre à tout le monde de faire croire qu'on peut jouer comme Federer.
Exactement. Si je me suis pas fait comprendre, j'en suis désolé, chers auditeurs.
Il y a Fred Garnier, je crois, qui fait partie de ce.
Fred.
C'est encore plus subtil que ça. Encore plus subtil que ça, c'est que ce qu'il dénonce, c'est que la Fédé, l'enseignement à la française, c'est effectivement le beau jeu, comme on doit apprendre dans les livres, et que il se fait que, enfin, Federer incarne ça. Mais l'enseignement tel qu'il est prodigué en France, il date d'avant Federer. Et avant Federer, c'est ce qu'on souhaitait faire en France. Donc effectivement, ça renforce l'idée du système français puisqu'il y a un joueur qui a réussi à incarner ça, qui est un joueur francophone, donc auquel on s'associe ou on s'identifie. Et effectivement, c'est ça qu'il dénonce. Mais en aucun cas, il se permettrait de critiquer Federer, etc.
Non, mais oh, vous me comprenez pas ou quoi ? Et bien sûr qu'il critique pas, c'est pas le souci. Je répète, il dit simplement qu'il n'y a pas que Federer sur la planète tennis. Il a une phrase. C'est pas la Fédération française d'ailleurs qui la colporte, c'est un peu nous tous, les spectateurs lambda, spectateurs en tout cas, qui est ceux qui n'aiment pas Federer n'aiment pas le tennis. C'est faux, on a droit d'aimer le tennis sans forcément aimer ce jeu magique que développe Federer, c'est vrai qu'il est d'attaque et ainsi de suite. Mais il n'y a pas que ça dans le tennis, c'est ça qui veut dire. Fred.
Ouais, après, Simon, où il y a un petit souci, c'est que, et ça se voit que c'est pas un enseignant non plus, c'est que, par exemple, si tu prends l'exemple de Nadal, qui est effectivement un super champion avec 20 grands chelems, etc., la particularité de Nadal, c'est qu'il a une technique qui lui est propre et qui est impossible à enseigner. Parce que son coup droit, tu essaies de l'enseigner à n'importe qui d'autre, personne n'y arrivera, parce qu'il a des particularités physiques, il a une maîtrise que lui seul a. Il a la particularité d'être droitier, on lui a appris à jouer en gaucher. Enfin, il y a tout un je dirais, c'est à la limite une succession de petites aberrations qui font un super champion. Mais forcément, quand t'es enseignant, tu peux pas dire, bah tiens, je vais t'apprendre une technique tout à fait particulière, puis on verra ce que ça donne. Donc ouais, le bémol, c'est que Simon a la raison, c'est que à terme, une fois que le jeune est formé, qu'on cherche toujours à aller dans une seule direction. Je suis d'accord avec lui, c'est très limité. Mais à la base, pour l'enseignant, il essaie d'enseigner les meilleures choses et les choses les plus pures.
On est tout à fait d'accord. Gilbo, je te laisse la parole. Je rebondis juste rapidement sur ce que dit Fred. On peut pas, c'est sûr, jouer comme Nadal. Déjà, on n'en a pas les moyens parce que moi, je me rappelle avoir fait avec un pote pendant 3-4 balles, on s'est dit, tiens, on va jouer un petit peu à la Nadal qui ne fait que lifter. Et au bout de 4 balles, j'ai pété mon cordage. Donc, ça me fait 20 euros les 4 balles. Pour nous, c'est trop cher. Hein, on n'a pas les moyens. Gilbo.
Non, ce qu'il dit, ce qui est très intéressant, c'est justement… Il dit pas qu'il faut apprendre à jouer comme Nadal ou il dit qu'il faut laisser le mec jouer comme il le veut. Et ça, c'est hyper intéressant. Il dit, par exemple, il prend l'exemple de Bartoli. Je ne sais pas si tu as lu encore le bouquin, hein, Fred. Et Bartoli, elle ne rentrait pas du tout dans les trucs de la Fédé. Et on veut mettre en France, on dit on veut mettre dans un moule. Il dit Nadal, par exemple, n'aurait pas pu faire sa carrière en France. On l'aurait empêché. Il dit, moi, j'arrive en rassemblement avec Noah, on me dit qu'il faut aller courir à 7 heures. Il dit, je sais très bien que moi, je n'ai pas besoin de faire du footing à 7 heures. Et on nous fait rentrer dans un cadre. Il faut laisser les mecs s'épanouir. Et mon fils, il a envie de jouer 3 mètres derrière la ligne. Qu'il joue 3 mètres derrière la ligne, il faut aller au bout de ses idées. Et ça, c'est quand même hyper intéressant.
Ouais. Alors, par rapport à ce que tu dis sur le footing, moi, je suis quand même pas d'accord avec ce que dit Simon dans le bouquin. À un moment, tu es dans une équipe de France. Alors, quand il est en individuel sur ses tournois, il fait ce qu'il veut, bien évidemment. Mais quand il est en équipe de France de Coupe Davis, si l'entraîneur a décidé de faire courir tout le monde à 7 heures, tout le monde court à 7 heures. Sinon, c'est plus une équipe. Et dans ces cas-là, ça sert à rien de faire ce cirque de la Coupe Davis où on porte le coq. Si on porte le coq, on respecte tout le monde dans son équipe. C'est Fred et Nico après.
Ouais, après, la difficulté aussi, quand c'est bien, effectivement, laisser les initiatives personnelles, mais la difficulté aussi, c'est que c'est le financement qui va avec. Laisser des individualités souhaiter faire comme elles le sentent. Je veux dire, Nadal a pu le faire parce qu'il est issu d'une famille qui a du pognon, qui a pu financer, qui a pu tout organiser autour du petit gars. Quand tu dépends totalement d'un système, bah forcément, le système, il est adapté au plus grand nombre. Et donc, c'est difficile de faire des cellules individuelles juste en disant, tiens, on va miser sur celui-ci éventuellement, quoi. Donc, de la même façon, c'est pour ça qu'on n'a que des cas particuliers, parce que Bartoli, si on reprend son parcours, bah ouais, mais le papa est médecin, etc. Donc, c'est pas non plus Monsieur Lambda. C'est aussi quelqu'un qui peut miser sur sa fille, quoi.
Ouais, Nico.
Ouais, juste une chose. Alors, moi, j'ai pas lu le livre, déjà, premièrement. Donc, je ne peux pas parler sur le fond, mais il y a juste j'ai vu une chose. Il y a eu un démenti quand même par rapport à des mecs de la fédération qui sont permis de remettre Simon un peu à sa place en disant qu'il était gentil, il critiquait le système fédéral de formation des jeunes joueurs et il le comparait avec d'autres. Ils lui ont simplement dit qu'il était passé par là, ça faisait une dizaine, enfin même 15 ou 20 ans. Et que le système avait énormément évolué. Donc, ce qu'il disait dans son livre n'était pas forcément le reflet de la réalité aujourd'hui et de la formation fédérale. Il donnait l'impression de cracher un peu dans la soupe quand même.
Ouais, c'est pas un peu. Hein. T'inquiète pas, il crache bien, bien dans la soupe. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais entendu la réponse. J'ai jamais entendu la réponse de la Fédé. Ouais.
Un peu sur Forget.
Justement, Forget en prend vraiment plein la tronche parce qu'il dit, moi, il me sélectionne en équipe de France et il me dit, regarde comment tu as gagné ton dernier match. Sur ta balle de match, tu es monté à la volée, tu as fini à la volée. Et il critique Forget en disant, non mais attends, j'ai gagné un point à la volée, tout le reste du match, je l'ai construit en fond de cours. Et il dit, non mais et je suis sélectionné là-dessus. Et bah, c'est ridicule, laissez-moi jouer mon fond de cours. Moi, je construis mes points à fond de cours, je ne construis pas mes points à la volée. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien? C'est mon jeu. Donc, arrêtez de le critiquer, ça me permet aussi de gagner. C'est Fred, c'est Gilbo et Fred après.
Ouais, ça c'est cohérent parce que quand il dit, par exemple, quand on perd en Serbie, il fait jouer l'Audra, là, parce qu'il sait que bah, voilà, la presse va le suivre, ça va faire super bien de faire jouer l'Audra, alors que lui, il a 7 victoires sur 7 sur Troïki, tu vois. Et le mec, ouais. Bah non, l'autre, il envoie l'Audra parce qu'il joue offensif et que comme ça, bah, il n'en prendra pas plein la gueule. Et c'est quand même assez intéressant. Hein,
tout ce... ouais, c'est intéressant, c'est sûr. Mais ça fait un peu cracher dans la soupe, ce qui est vrai aussi. C'est Fred.
Ouais, cet aspect-là, du coup, est très, très bien parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir le côté mental. Après, sur le coup de Forget en Serbie, Forget, qu'est-ce qu'il tente? Il tente la noix de 91 qui lance Henri Lecomte, qui est cassé de partout en finale contre les Américains et qui va battre Sampras, va porter l'équipe. Donc, il tente la même chose avec l'Audra, qui est un gaucher, qui est un foufou. Et effectivement, Forget, plutôt que d'être rigoureux dans son analyse, bah, il sait se porter par un espèce de sentiment qu'avait parfaitement réussi à Noah en 91. Parce que faut pas oublier qu'en 91… le Comte, il sort d'une double hernie discale, etc. Il n'y a que Noah pour croire dans le retour de Le Comte. Et Forget, bah, il se prend les pieds dans le tapis, il tente un peu la même chose avec l'Audra, alors qu'effectivement, la sécurité, c'était de mettre Simon, parce que Simon, c'était le joueur fiable.
Mais sauf que quand tu t'appelles pas Noah et Le Comte, c'est deux personnages complètement atypiques. Et si tu veux refaire ce qu'ils ont fait, bah, excuse-moi, mais c'est impossible. Parce que Forget et l'Audra, ça n'a rien à voir avec Noah et Le Comte.
Donc ça, c'est juste une fois de plus l'insoutenable légèreté de l'être, messieurs. C'est-à-dire que quand on gagne, on est un champion, et quand on perd, on est un moins que rien. Ben là, en l'occurrence, Forget a loupé son coup, ben c'est un moins que rien. Noah avait réussi, ben Noah c'est devenu.
Parce que Noah, il est capable d'aller chercher des trucs comme ça, ce qu'il est pas capable de faire Forget.
Fred.
Ouais, mais après Noah, c'est toujours la même chose. C'est très français. On enjolive beaucoup. Donc, on est très fiers des super coups qu'il a réussi. Par contre, quand il a fait d'énormes cagades, ça, on le passe sous le tapis. Donc, ça a marché, effectivement, en 91, ça a marqué tout le monde. Mais il y a aussi des fois où il a fait des choix beaucoup plus détonnants, enfin, aussi détonnants et qui n'ont pas fonctionné du tout.
Oui, mais vraiment. On dit même qu'il a fait gagner Paris en 96 à la Coupe d'Europe. Là.
C'est ça. Ouais. Mais c'est, Parfois, c'est comme tout le monde, il se noie, hein, tout simplement. Donc, il parle également, Gilles Simon, des stéréotypes, des interviews, et ça fait des bien de lire ça, parce que on entend toujours parler des footballeurs, ces bandes d'abrutis là, qui disent tout le temps la même chose en interview. Et là, il vous fait les interviews de Nadal. Ouais. Il dit, Nadal, écoutez-le, Nadal, il va être interrogé 600 fois. 600 fois, il va vous dire qu'il a fait un bon match, mais qu'il a vraiment peur pour le tour d'après. Même s'il joue un 425e mondial, il va vous dire qu'il a peur pour le tour d'après parce que son adversaire est intéressant, qu'il a bougé et ainsi de suite. Il dit, mais tout ça, c'est du pipeau. Arrêtez vos conneries et arrêtez de me prendre pour un prétentieux quand je vous dis que je vais gagner le match d'après parce que je sais exactement quel joueur j'affronte et quel jeu il va jouer et que moi ça me correspond et je sais que je vais m'adapter. Il dit, vous écoutez Nadal, ce sera toujours poli, ce sera toujours machin, mais ce sera complètement inintéressant. Et ça me fait plaisir parce que la fameuse langue de bois des footeux est tellement décriée, bah lui il vous dit, mais en tennis c'est encore pire. Et ça fait du bien qu'il parle de ça aussi. Ouais Fred ?
Ouais, mais c'est comme ça dans tous les sports.
Mais c'est comme ça dans tous les sports. Mais je suis d'accord avec toi. Mais alors pourquoi on stigmatise tellement les footeux ? Ben simplement parce qu'on les entend beaucoup plus que les autres.
Ah non, parce que les footeux, là, ils expliquent que le tennisman, il maîtrise. Nadal s'est maîtrisé. Les
footeux, mais Nadal s'est maîtrisé. Il te
les
dit.
Footeux, le Nadal... problème, il est au-delà. Ils n'alignent pas trois mots, excuse-moi. Mais
c'est pas vrai du tout.
Pas forcément
ça,
leur faute, pas tous. Mais c'est un peu caricatural, mais globalement, si, quand même.
Mais ils le disent très bien, les footeux, Gilbo, on a fait un bon match, c'est l'équipe qui a gagné, c'est pas moi le plus fort, c'est gnagnin, et la prochaine équipe qu'on affronte, elle est très forte et on va se méfier. Oh, me fais pas croire qu'un footeux, c'est plus con qu'un autre non plus.
Je suis désolé, tu écoutes un rugbyman, un cycliste, au moins ils vont faire une bonne langue de bois.
C'est pas vrai, ça c'est un mythe.
Mais si, tu vois bien qu'il y a un problème de niveau aussi.
Non, mais d'un autre côté, c'est aussi pas le même sport. Le footballeur, c'est un sport collectif. Donc, quelquefois, t'es dans une équipe, l'équipe a perdu alors que le mec a fait un super match. Donc, c'est délicat aussi de dire, bah, moi, je me suis trouvé bon, j'ai été assez chouette en numéro 6, j'étais top. Par contre, bah ouais, notre stopper, c'est un blaireau, il a fait des conneries. Donc, ils sont obligés aussi de ménager la chèvre et le chou, alors que le tennisman, bah, il n'y a que lui. Donc, c'est plus simple aussi de maîtriser ça comme, quoi.
D'accord. Donc en fait, en foot, on peut rien dire, quoi. Donc si tu dis, comme tu dis, si ton numéro 6 est excellent au milieu de tocards, donc il n'a pas le droit de dire qu'il est bon. Et s'il dit que l'équipe a quand même fait un bon match, il parle en langue de bois. Donc de toute façon, le footeux, ce sera toujours le couillon de service.
Non, mais je suis désolé. Il y a un moment, tu vois, par exemple, la voile, les mecs qui racontent des trucs, Kevin Escoffier, par exemple, est passionnant. Il y a des moments, les footeux, ils peuvent avoir des créneaux pour raconter des trucs. Il y a sûrement de l'espace. Sans critiquer l'entraîneur, ils ne le font pas, ils n'y vont pas.
Ouais. Tu vois, mais avec
Escoffier, il raconte son truc. Il ne va pas tout te dire, il dit ce qu'il veut, Escoffier, c'est pareil.
Ouais, tu as raison, Gilbo. Quand on vient t'interroger à la mi-temps, que tu perds 1-0, alors qu'est-ce que vous allez faire en seconde mi-temps ? Bah, on va essayer de revenir, connard. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise, le mec ? Qu'est-ce que tu veux qu'il dise ? Ah, bah, Lino, elle est banale, sa réponse. Bah, forcément qu'elle est banale, t'as vu la tronche de la question.
À chaud, on ne parle pas de ça.
Toi, tu es en train de me parler d'Escoffier sur Stade 2 où le mec, on lui donne une demi-antenne et le mec est passionnant, je suis d'accord avec toi. Le mec est passionnant. Mais donne le temps de causer un footeux sur des questions un peu plus intéressantes aussi.
Ben si, tu avais un mec qui arrivait, c'était Thomas Meunier. Ben, Thomas Meunier, il avait des trucs intéressants à dire. Il se faisait traiter d'un télo, de je ne sais pas quoi, par tout le monde. Le mec, ben voilà, pourquoi il n'y aura pas plus de Thomas Meunier dans le foot ? Ben, on ne sait pas pourquoi. Le mec, c'était très intéressant ce qu'il disait.
On avance, messieurs, parce qu'il parle aussi, et on conclura peut-être sur Gilles Simon, il parle aussi de la peur. Et la peur, on n'a pas le droit d'en parler. On n'a pas le droit d'en parler. Chez les femmes ont le droit d'en parler. Il dit que dans le tennis féminin, c'est un sujet qu'on peut évoquer chez les hommes. Évidemment, c'est interdit de parler de la peur. Et il vous dit qu'à un moment d'un tournoi, et même à un moment de tous les matchs, tout le monde a peur à un moment, quoi. Sur la balle de match, sur les balles précédentes, quand on loupe un coup facile et ainsi de suite, la trouille, elle s'installe et c'est très, très difficile à gérer. Et il n'y a pas un mec meilleur que les autres. Et ce qu'il dit aussi, c'est qu'il dit que dans la Fédération française de tennis, on vous apprend à corriger votre physique, on vous apprend à corriger votre technique, mais à aucun moment, on apprend à corriger son mental. Et quand on entend toujours les sportifs de haut niveau qui vous rabattent les oreilles avec le mental, c'est 80% du boulot, ben, si on bosse pas sur 80% du truc, ben, forcément, il va manquer quelque chose, ce qui n'a pas l'air d'être le cas dans les autres fédérations.
Ouais, mais ça, c'était encore un aspect très intéressant sur la peur. Ça, effectivement, c'est assez rassurant de savoir que les grands champions ont peur, comme tout joueur de club ou petit club que l'on peut être, ou petit joueur de club que l'on peut être. Et ça, c'est assez sympa de, effectivement. Donc ça rend le sportif encore plus humain. Donc ça, c'est pas mal. Donc j'aimerais bien entendre aussi des boxeurs, des judokas parler de tout ça, quoi.
Ouais, mais alors un boxeur, c'est pareil, il n'a pas le droit de rentrer sur le ring, j'ai la trouille. Un rugbyman, il ne peut pas rentrer sur le terrain, j'ai la trouille. Alors que, mais forcément, t'es bouffé par la trouille, à mon avis, de te faire ramasser la tronche, ce qui est plutôt logique, quoi. Gilbo.
Non, bah, c'était les boxeurs le disent un petit peu quand même, parce que c'est plus facile.
En post-carrière, sur la carrière en elle-même,
c'était très intéressant. Enfin, il dit quand même pas mal de trucs intéressants aussi sur le fait qu'on dit toujours le mec qui joue mieux, le Nadal, il joue mieux, ou Federer joue mieux. Et en fait, quand on a peur, on se remet dans sa filière, quoi. Tu vois, ouais. Par exemple, moi, quand j'ai peur au volet, bah, j'envoie un gros match, tu vois. Et c'est vrai que
c'est un très bon joueur.
Que j'arrive à sauver l'équipe. Mais bon,
t'es un très très bon joueur. Il défend également le fait de arrêtons de travailler nos points faibles, travaillons nos points forts. Et moi, je défends ça aussi dans pas mal de sports. Eh ben, il y a des mecs qui ne seront jamais rapides. Et donc, c'est pas la peine d'en faire des chevaux de course. Ils seront jamais rapides. Donc, peaufinons leur vision du jeu. Alors, je parle en foot, évidemment. Mais peaufinons leur vision du jeu, peaufinons leur technique. On va peaufiner leurs points forts plutôt que le fait d'aller travailler un dixième de seconde ou même pas sur 100 mètres. C'est la perte de temps. Fred, et on conclura sur ce sujet.
Ce que tu dis, c'est intéressant, mais ça dépend vraiment du sport, parce que c'est très américain, ça, jouer sur ses points forts et tout, mais quand tu as vraiment trop gros trous à côté, quand c'est trop béant et trop flagrant, bah, c'est compliqué. Donc ça, je pense, ça dépend vraiment du sport. Après, effectivement, quand on essaie d'améliorer ses points faibles, bah, on sait qu'on est en train de diminuer ou de gommer un petit peu ses points forts. Donc, il faut trouver le juste équilibre. Mais ça, c'est intéressant du point de vue coaching.
Tout à fait. Joël, tu n'oublies pas de nous couper quand on a dépassé le temps, parce qu'il y a encore plein de choses à se dire. Lionel, tu ne t'endors pas, mon ami, s'il te plaît.
Non, mais je peux rebondir aussi là-dessus, parce que je rebondis sur ce que j'écoutais Fred, c'était super, mais c'est vrai que ne pas travailler les points faibles, surtout sur des sports duels, c'est évidemment avoir quelqu'un qui va te mettre sur les points faibles, et là, ça va pas le faire longtemps.
Ça va pas le faire le temps. Ça y est, Joël est à l'antenne. Il nous coupe. Messieurs, dames, on sait que vous êtes dans la détresse. Nous aussi, figurez-vous. Mais, il y a un cadeau de Noël. L'autre radio vous donne ce cadeau de Noël. Puisque la suite est tout simplement à 19h. Je ne parle pas d'une rediffusion bête et méchante. Je vous parle d'une suite de sport épique.
Un bonus!
Alors, à tout à l'heure, chers auditeurs, on
continue
encore plein de choses pour vous.
C'est dingue.
Bonne à tous.
C'est Noël.
Incroyable.
Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère.